Amiel s'engage à pas presser dans la passerelle déserte du mémorial ACTE. Le gardien du musée, un vieil homme au regard fatigué, le suit à distance, le pas particulièrement motivé pour le rattraper. Il n'a pas semblé ravi d'ouvrir la porte du mémorial au capitaine à 7h du matin, c'est-à-dire aux 2 heures avant l'ouverture officielle. Il n'a pas l'air d'apprécier la police et encore moins les passe-droits, mais il n'a pas eu le choix. Les consignes sont directement descendues du sous-préfet. Le musée doit dérouler le tapis rouge aux enquêteurs de la DZPJ, quelle que soit leur demande. Amiel ralentit à la sortie de la passerelle et prend le temps d'admirer la structure futuriste du bâtiment. Un enchevêtrement de lianes d'acier recouvrant une boîte de granit noir. Selon les architectes, il représente l'allégorie monumentale d'un figuier maudit, gardien éternel de la mémoire. S'ils le disent, le capitaine Ouassou, avant d'entrer dans la première salle, lit le prénom de son interlocuteur sur le badge agrafé de sa veste et tente une conciliation. « Je m'excuse encore de vous avoir fait lever aussitôt, Victor. Vous devez avoir d'autres priorités en tant que conservateur et... »« Vous fatiguez pas le conservateur. Il dort. Je suis juste un employé payé au SMIC à qui on a confié les clés. »«
Ah !» bafoue Amiel, désolé, nous avons un meurtrier dans la nature, une victime assassinée.
Je sais, je suis l'actualité. Un milliardaire harponné, on en aurait fait autant pour un jeune de la cour Zamia qui se serait fait planter. Même chez les Maccabées, il y a des privilégiés. Amiel ne commente pas. Il se dit que pour l'instant, c'est lui le privilégié. Il bénéficie d'une visite privée de ce mémorial flambant neuf, le plus grand musée au monde consacré à l'esclavage. Tout droit, indique Victor. Un lieu de recueillement, d'éducation, d'interprétation. Ils suivent un nouveau couloir, longe un interminable alignement de bustes noirs enchaînés par le cou, traverse des pièces comme on change de continent. La pédagogie, à grand renfort de cartes et de scénographies, rappelle à quel point le commerce d'humains fut une pratique universelle. Victor s'arrête enfin et sort son trousseau. Espèce de recherche généalogique, dit Amiel. Victor ouvre la porte et tourne les talons. C'est là, je vous laisse. Le capitaine détaille la salle. Décor minimaliste à l'exception des posters d'arbres généalogiques accrochés au mur. Une dizaine d'écrans tactiles sont posés sur des bureaux en libre accès. « Je crois que je vais avoir besoin d'aide, » insiste Amiel avec humilité. Le gardien paraît enfin touché par la requête du policier. « Vous voulez savoir si votre PDG poignardé possède un ancêtre esclave? Vu sa couleur de peau, il y a 99% de chances que ce soit le cas. »
« En vérité, je cherche plutôt l'inverse. » Amiel sort une carte de sa poche. Anatole Seigneva, né en 1625 à Tivaouane, au Sénégal, mort en 1673, 63 prisons de Petit Camal, Guadeloupe.
Savoir si cet homme a existé. Victor étudie la carte sourcil froncé.
On l'a retrouvé sur la marche des esclaves, précise Amiel.
Ouais, c'est dans le maillot du corps abandonné.
Alors vous êtes au bon endroit, capitaine.
Le gardien tire une chaise, redresse la tête et s'affaisse, comme s'il était déjà épuisé par sa journée.
Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Cette salle est le lieu le plus visité du mémorial.
grâce au travail d'un amateur de génie, Michel Roger. Les arbres généalogiques de 6000 familles de Guadeloupe sont ici mis à disposition du public. Si cela ne suffit pas pour retrouver vos ancêtres, cet espace donne aussi accès aux archives nationales de l'Outre-mer ou à d'autres sources privées. En résumé, presque n'importe quel Guadeloupéen peut retrouver le nom de son aïeul, du moins à partir de 1848. Né en 1625 à Tivaouane, au Sénégal, mort en 1663 à Petit Canal, relié à Miel, et avant. Avant 1848, les esclaves ne possédaient qu'un numéro de matricule, très rarement prénom, d'où l'importance de cet espace généalogique. En 1848, près de 90 000 esclaves ont été affranchis en Guadeloupe et les autorités locales ont reçu l'ordre de leur trouver un nom de famille. Rendez-vous compte, les employés de l'état civil dans chaque mairie, en quelques semaines, ont dû inventer des milliers de patronymes. C'est ce qui explique l'originalité des noms antillais. Les fonctionnaires des mairies ont fait preuve de plus ou moins d'imagination, de délicatesse. Ils ont utilisé tout ce qui pouvait les inspirer, les objets, les lieux, les particularités physiques, les ressemblances humiliantes. Les particularités physiques, les ressemblances, les tabourets, marteaux, cocotiers, joyeux, le borgne, baudet, pigeon, parfois déguisé sous forme d'anagramme, souvent assimilé sous forme de moquerie. Vous, par exemple, capitaine, quel est votre nom de famille? Ouassou répond à Miel après une hésitation. Comme les gambas des rivières, un nom créole. Félicitations, c'est plutôt rare, votre ancêtre est tombé sur un agent de l'état civil intelligent. Intelligent? Amiel repense au nombre de fois où ses camarades de classe l'ont traité de crevette. Tout cela parce que l'officier de l'état civil venait peut-être de manger une fricassée d'ouassou. Moi, c'est mal bâti, précise Victor. Pas besoin de vous expliquer. Allez-y entre le nom de votre Anatole Seignevan. On verra au moins s'il existe. Amiel est loin d'en être convaincu. À sa grande surprise, pourtant, moins d'une seconde après l'avoir tapé, un émoticône souriant s'affiche. Anatole Seignevan, né le 8 juin 1823, mort le 29 octobre 1861. Le capitaine Ouassou tente de réfléchir aussi vite que l'algorithme des recherches généalogiques. Cet Anatole Seignevan a donc réellement existé. Pourtant, ses dates de naissance ou de mort ont été inventées par le meurtrier. Pour quelle raison? Pourquoi avoir choisi le nom de cet esclave en particulier? On peut connaître autre chose sur cet Anatole? Oui. La commune où il a été affranchi et celle où il est mort. Amiel clique sur suivant et apprend qu'Anatole Seignevan a été affranchi à Petit Canal en juin 1848, puis est mort à Port-Louis, 13 ans plus tard. Il n'en saura pas plus. Il avait fondé tous ses espoirs sur cette machine à remonter le temps, cette fabuleuse base de données, mais le mystère reste entier. Pour quelle foutue raison le meurtrier a-t-il laissé ce nom Anatole Seignevan? Le regard du capitaine embrasse la pièce, s'attarde sur les posters d'arbres généalogiques, tous superbement illustrés. Il peste dans sa tête, à la recherche d'une idée. Comment en découvrir davantage sur un esclave affranchi, décédé il y a plus de 150 ans et que tout le monde a oublié? Quel secret se cache derrière son identité? Et pourquoi Raphaël ne l'a-t-il toujours pas rappelé?